Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de 13h. L'Aquarius n'est plus, place à Ocean Viking. C'est le tout nouveau navire humanitaire de SOS Méditerranée. Il partira dans quelques jours pour aller sauver des migrants en mer, parmi eux des femmes enceintes. On a rencontré la sage-femme de bord. La polémique sur la manifestation interdite à Nantes demain en hommage à Steve. Le préfet l'a interdite. Il affirme avoir des informations sur des éléments perturbateurs qui voudraient en découdre, dit-il. Polémique aussi après les attaques contre des permanences d'élus de la majorité à Toulouse. L'une des députées visées dénonce une violence inédite, vous l'entendrez. C'est le dossier chaud de l'été, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, relancée hier par Donald Trump, qui annonce des surtaxes sur les importations chinoises jusqu'ici épargnées. La Chine nous vole, c'est justifié le président américain. Les marchés sont déstabilisés, alors l'économie américaine peut-elle en pâtir? On posera la question à notre invité Corentin Célin, professeur d'histoire et spécialiste des États-Unis. Dans l'actualité aussi, en Arabie Saoudite, les femmes gagnent un peu de liberté, Nadine Epstein.
Oui, elles viennent d'obtenir le droit de sortir du pays sans l'autorisation d'un homme.
Nous irons aussi en Chine, à J-1 du trophée des champions, c'est du foot, Rennes PSG, et les Chinois ont leur chouchou côté parisien, vous l'entendrez. La météo, Sébastien Léas.
Oui, bonjour, après une matinée globalement bien ensoleillée, quelques petits nuages vont fleurir cet après-midi, mais sans inverser la tendance. Sur les Pyrénées, les Alpes et du nord de la Seine jusqu'au Grand Est, les bourgeonnements nuageux seront un peu plus présents. Une petite averse pourra même se produire avec également quelques coups de tonnerre sur le Mercantour. Et les températures sont en hausse, 23 à 30 degrés en général et 27 à 36 degrés autour de la Méditerranée.
Merci et à tout à l'heure pour un point complet. Ce sera à la fin du journal.
France Inter.
7 mois après l'arrêt de l'Aquarius sous la pression des autorités italiennes, l'ONG française SOS Méditerranée s'apprête à repartir au large de la Libye. Comme avant, sa mission sera de secourir les migrants sur la périlleuse route maritime de l'exil. On compte près de 600 morts depuis le début de l'année. Et son tout nouveau navire humanitaire affrété avec Médecins Sans Frontières s'appelle Ocean Viking. Il bat pavillon norvégien. Il doit partir dans quelques jours, on ne sait pas encore quand. Et il est pour l'instant à quai à Marseille. Escale technique au cours de laquelle notre reporter Thibault Lefebvre en a profité pour rencontrer les bénévoles et notamment Marina. Elle est japonaise, elle est surtout la sage-femme de bord et elle a un rôle clé. Reportage.
Voici la salle de travail avec le lit utilisé pour les accouchements.
5 ou 6 mètres carrés tout au plus, avec donc un lit, un lavabo et tout le matériel nécessaire à un accouchement en urgence. Marina part pour sa deuxième mission au large de la Libye avec SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières.
Ça a beaucoup évolué. La qualité de l'accueil a beaucoup changé. C'est un endroit privé, réservé à ces femmes. Je peux maintenant faire des consultations dans un endroit très calme. C'est bien pour elles. Sur l'Aquarius, on utilisait n'importe quel espace libre.
Car Marina a connu des conditions de soins très précaires à bord de l'Aquarius. Elle se souviendra toute sa vie de la nuit du 10 au 11 décembre 2016. Le navire humanitaire venait de sauver des centaines de rescapés.
Une femme sur le point d'accoucher a été secourue. Le travail ne se passait pas bien, le bébé était en danger. À ce moment-là, nous avons eu un sauvetage. Plus de 500 personnes sont montées à bord. Nous étions donc très, très occupés. Elle a alors poussé très fort et après 5 minutes, elle a couché par terre. Le bébé était un petit garçon, en bonne santé. Elle l'appelait Faveur. J'étais vraiment très heureuse.
Marina est restée en contact avec Faveur et sa maman. Le petit garçon a aujourd'hui 2 ans et demi. Il va à la crèche dans le sud de l'Italie.
Un portrait signé Thibault Lefebvre, envoyé spécial à Marseille. Ces photos de l'Ocean Viking sont à voir sur le site de France Inter. À Marseille, où un rassemblement est annoncé demain en hommage à Steve Maya Caniço, comme dans d'autres villes de France d'ailleurs, et notamment à Nantes, bien sûr. Point de ralliement national, point de cristallisation des tensions aussi. C'est ici que le jeune homme a disparu le 21 juin dernier. Ici que son corps a été retrouvé lundi. Une disparition entourée de pas mal de zones d'ombre encore, même si le rapport de l'IGPN, la police des polices, affirme qu'aucun lien ne peut être établi avec l'intervention policière lors de la fête de la musique. Certains contestent. Hier, sur notre antenne, vous avez entendu ce témoignage de Romain présent ce soir-là et qui affirme avoir été écarté de l'enquête. Bref, le préfet de police de Nantes craint des débordements demain. Claude Darcourt a décidé d'interdire tout rassemblement dans une bonne partie du centre-ville de 10h à 20h. Et il s'est expliqué ce matin lors d'une conférence de presse.
Nous disposons d'informations concordantes sur la volonté d'un certain nombre de groupes activistes d'en découdre avec les forces de police, avec les institutions publiques, c'est-à-dire la représentation de l'État, la mairie, les institutions judiciaires, et de perturber un rassemblement prévu, projeté par la communauté qui s'est réunie autour de la disparition de Steve Massino. Nous ne voulons pas que ces individus volent à la collectivité le moment d'émotion qui est souhaité par tous les amis de Steve. Vous le savez, nous ne donnons pas le détail des moyens dont nous disposons, mais je peux vous dire que nous aurons les moyens de faire face à ces fauteurs de troubles. C'est ce à quoi nous travaillons et le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, nous a donné ce dont nous avions besoin.
Des propos recueillis par Sarah Mansoura de France Bleu Loire-Océan. Cette interdiction de manifester inquiète l'adjoint communiste à la mairie de Nantes. L'émotion doit pouvoir se manifester, estime Aymeric Sasso. La tension monte aussi avec les agriculteurs. Une quinzaine de permanences parlementaires ou de locaux de La République En Marche vandalisés ces derniers jours. En cause, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, le CETA ratifié à l'Assemblée nationale. Le texte supprime notamment les droits de douane sur 98% des produits échangés, concurrence déloyale et risques sanitaires, disent les agriculteurs. Hier soir, ils s'étaient donné rendez-vous à Toulouse pour cibler deux permanences, notamment celle de Monique Iborra, à Tournefeuille, à l'ouest de la ville. 2 tonnes de fumier déversées devant son local parce qu'elle a voté en faveur du CETA. Elle n'était pas là au moment des faits et elle dénonce ses actions.
D'abord, c'est violent, hein, ça c'est clair, mais j'en suis pas à mon premier mandat, donc... Des actions de contestation, j'en ai connu un certain nombre, mais pas sous cette forme de violence. Et d'autre part, c'est la cible, c'est-à-dire les députés. Non pas pour notre petite personne, le problème n'est pas là, mais pour ce que nous représentons, c'est-à-dire finalement la démocratie participative. C'est une mauvaise manière d'aborder les choses, honnêtement, parce qu'en aucune manière, en démocratie, les députés ne peuvent agir que sur la pression ou sous la menace. Je pense que même dans leur intérêt, leur démarche, là, elle n'est pas extraordinaire.
Monique Iborra au téléphone de Cyril Gradiani. Un mot encore sur Nantes et la manifestation interdite de demain pour Steve. L'avocate de la famille de Steve déclare aujourd'hui que sa famille ne soutient pas du tout le rassemblement qui est prévu demain. Nous sommes au cœur de l'été et il fait lourd, très lourd sur les places financières. Un été orageux sur fond de guerre commerciale. Japon, Corée du Sud, Europe, États-Unis et surtout Chine, États-Unis. On pensait que c'était la trêve. Les discussions venaient de reprendre cette semaine entre Pékin et Washington. La réunion venait de se terminer à Shanghai quand Donald Trump a mis les pieds dans le plat hier soir. 10% de droits de douane supplémentaires sur des produits chinois importés jusque-là épargnés. L'électroménager, les produits agroalimentaires, des biens de consommation courante en fait. Il a suffi d'un petit tweet au président américain suivi d'une courte déclaration lors d'un meeting de campagne. Écoutez-le.
Ces 20 dernières années, la Chine nous a pris des centaines et des centaines de milliards de dollars. Et maintenant, nous mettons un terme à ce vol. Vous savez quoi? Je pense qu'ils veulent essayer de trouver un accord avec nous, mais je n'en suis pas sûr. Ils sont en train de prier. Ils aimeraient qu'il y ait un nouveau président dans un an et demi afin qu'ils puissent continuer à arnaquer les États-Unis comme ils le font depuis 25 ans.
Donald Trump avec Loïc Loury, correspondant à Washington pour France Inter. Selon le président américain, la Chine n'a pas tenu ses engagements. Depuis son premier tweet en mars pour annoncer des taxes sur l'acier et l'aluminium, le président n'a cessé d'imposer de nouveaux produits. Aujourd'hui, la quasi-totalité des biens chinois est concernée. Mal parti donc pour la reprise des négociations en septembre, d'autant que la Chine ne compte pas se laisser faire. Pékin promet ce matin des représailles. Et pour en parler, notre invité aujourd'hui est Corentin Célin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire et spécialiste des États-Unis. Alors, pour comprendre, Donald Trump a lancé ses négociations commerciales avec la Chine. C'est lui qui a voulu obtenir un nouvel accord. Et aujourd'hui, il menace encore. Donc, première question toute simple. Que veut le président américain?
Il veut un accord, justement, et cette nouvelle menace sonne en fait comme un constat d'échec pour lui. Cela fait déjà plus d'un an qu'il a entrepris des négociations commerciales sous le coup sans cesse de hausse des tarifs douaniers, et il n'obtient rien, comme vous l'avez rappelé. Les derniers entretiens à Shanghai ont été un échec, et j'allais dire, pour Donald Trump, ça urge, parce que c'est lui qui a déclenché cette guerre commerciale avec la Chine pour obtenir un nouvel accord, selon lui, plus sain, plus régulier de commerce entre les deux pays. Et il n'a rien. Et nous arrivons bientôt en année électorale. Et ce serait un terrible échec pour lui de se retrouver les mains vides.
Et est-ce que c'est justement la première conséquence de ces nouvelles taxes? Est-ce que ce n'est pas un handicap pour l'économie américaine finalement? On l'a vu, les bourses sont assommées, Wall Street, Paris ont dévissé. Est-ce que ce n'est pas contre-productif tout ça?
Bien sûr, mais Donald Trump, depuis le début, soutient qu'en fait, c'est l'économie chinoise qui sera tellement impactée, tellement affaiblie, puisque beaucoup d'entreprises, selon Trump, se retireront de Chine à cause des tarifs douaniers aux États-Unis. Et en fait, il prétend que l'économie américaine ne sera pas impactée, contrairement au consensus général de tous les économistes qui disent, bah, bien entendu, avec des produits chinois plus lourdement importés, les entreprises américaines qui les importent vont répercuter sur le prix de vente aux consommateurs. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais lui ne veut pas l'entendre. Alors comme il ne veut pas l'entendre, eh bien il poursuit cette hausse inlassable des tarifs. Et il se soucie très peu des conséquences mondiales, on le voit, puisque ce faisant, l'économie mondiale se nourrit d'incertitudes, et se nourrissant d'incertitudes, les bourses commencent à dévisser, les perspectives de croissance s'affaissent, mais lui n'en a cure. Il veut absolument cet accord, quel qu'en soit le prix, et donc à coût de tarifs douaniers.
Vous parliez tout à l'heure du contexte électoral. On peut donc se demander si, en dehors de ce contexte électoral, Donald Trump aurait fait cette même annonce comme il l'a faite hier soir.
Oui, oui, tout à fait. On voit bien, vous l'avez rappelé avec votre son dans son meeting en Ohio, vraiment, désormais, c'est tout pour la scène intérieure. Il faut rappeler que cette guerre commerciale avec la Chine était dans son programme de 2016. Il avait promis que lui, contrairement à Bush et à Obama, ferait payer le prix à la Chine de sa croissance indécente, soi-disant, selon Trump, nourrie de l'arnaque des États-Unis. Hein, la Chine profiterait du libre-échange pour arnaquer les États-Unis. Il avait promis qu'il aurait un accord. Il ne l'a pas pour l'instant, donc il met la pression et ainsi il peut dire à son électorat, vous voyez, je vous protège, comme je vous l'avais promis, et grâce à mes tarifs douaniers, les emplois industriels en particulier pourront revenir aux États-Unis et je protège les États-Unis. Donc, il est vraiment dans sa promesse de 2016, sa promesse nationaliste et protectionniste, sauf que, évidemment, ce faisant, il met en péril tous les équilibres de l'économie mondiale.
Mais est-ce que pour autant tout est acheté? Parce qu'on s'attaque souvent au président américain, on pense qu'il est impulsif, mais on voit l'économie américaine fonctionne aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il ne va pas décrocher cet accord avec la Chine?
Alors, on voit bien que sa stratégie de tarifs douaniers, elle fonctionne très bien, en effet, avec des pays plus petits, plus faibles et plus dépendants des États-Unis. On a vu qu'il a obtenu du Mexique, par exemple, des amendements et des politiques plus favorables aux États-Unis sur l'immigration grâce à des tarifs douaniers. Pareil avec le Guatemala, ça fonctionne, et aussi avec le Canada. Ça fonctionne bien avec des pays plus petits et dépendants. Mais là, avec la Chine, forcément, il est avec une économie qui peut rivaliser en volume avec celle des États-Unis. Évidemment, la Chine, pour des questions de standing international, ne veut pas paraître faible par rapport aux menaces du président des États-Unis et répond à chaque fois avec, à son tour, des tarifs douaniers sur les produits états-uniens. Et donc, on voit bien que ça peut fonctionner, cette stratégie, mais avec des petits pays plus petits ou dépendants, et moins avec une immense puissance comme l'est devenue la Chine.
Merci beaucoup Corentin Célin, professeur d'histoire et spécialiste des États-Unis, invité du journal de 13h aujourd'hui. Et pour aller plus loin, pour comprendre la politique derrière ces taxes américaines, un dossier vous attend sur notre site franceinter.fr. Et puis ce n'est pas fini, Donald Trump doit s'exprimer ce soir peu avant 20h sur ses relations commerciales, cette fois avec l'Union Européenne. En mai dernier, on s'en souvient, il avait menacé les importations de voitures avant de s'accorder un délai de 6 mois. On dit de lui qu'il est le Donald Trump britannique, mais Boris Johnson n'aura pas eu, lui, d'état de grâce 9 jours après son arrivée au 10 Downing Street. Le Premier ministre a subi cette nuit son premier revers électoral. Son parti conservateur n'a plus qu'une majorité d'un siège au Parlement. Les Tories ont perdu une élection législative partielle au Pays de Galles au profit des libéraux-démocrates. Otsoufi, cette défaite a de quoi compliquer la stratégie et la marge de manœuvre de Boris Johnson.
Un seul siège de député, cela semble anodin. Pourtant, cette élection partielle au Pays de Galles affaiblit la majorité du Premier ministre Boris Johnson, qui tire désormais à un fil, à une voix au Parlement. En remportant le scrutin devant le conservateur en place, la candidate libérale-démocrate Jane Dodds change l'équilibre à la Chambre des communes et compte bien y faire entendre la voix des pro-européens.
Ma toute première action sera de trouver Boris Johnson, où qu'il se cache, et de lui dire haut et fort, arrêtez de jouer avec l'avenir de nos communautés et écarter un Brexit sans accord maintenant.
Le tout nouveau gouvernement a annoncé mercredi qu'il doublait son budget consacré au no deal, 2,1 milliards de livres supplémentaires pour accélérer les préparations. Le Premier ministre n'a cessé de répéter que la sortie de l'Union européenne se ferait le 31 octobre avec ou sans accord. Mais désormais, un seul député rebelle, un conservateur refusant le no deal, pourrait bloquer son plan au Parlement. Et il y en a. Il suffirait aussi d'un seul frondeur dans la majorité pour voter une motion de censure et renverser le gouvernement. À Londres, Otsoufi, France Inter.
En Arabie Saoudite, c'est un petit pas vers le progrès, un pas de géant pour les Saoudiennes. Le royaume autorise désormais les femmes à obtenir un passeport et à voyager à l'étranger sans l'accord préalable d'un gardien de sexe masculin. Un décret vient d'être publié au journal officiel. Nadine Epstein, c'est une vraie avancée pour les femmes.
Et oui, dans le pays où la séparation des sexes est la plus stricte au monde et la domination masculine érigée comme système public, le simple droit pour une Saoudienne de demander et d'obtenir un passeport est globalement accueilli comme une avancée. C'est un changement qui signifie que les femmes sont sur la voie de prendre totalement le contrôle de leur destinée légale, s'est réjouie une femme d'affaires à Riyad. Désormais, les Saoudiennes n'ont plus besoin de l'approbation d'un homme pour aller étudier à l'étranger, répondre à une offre d'emploi ailleurs ou simplement voyager. La tutelle perpétuelle du mâle se fissure. Une autre prérogative réservée jusqu'ici aux hommes saute. Les Saoudiennes pourront elles-mêmes déclarer officiellement une naissance, un mariage ou un divorce et être titulaires de l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs. Pour autant, ces réformes lancées depuis un an, depuis l'annonce du droit des Saoudiennes de conduire, n'empêchent pas les autorités à emprisonner les militantes féministes qui réclament l'abolition du gardien masculin, cette doctrine qui maintient les Saoudiennes dans un statut de mineur dépendante du patriarcat.
Merci beaucoup Nadine Epstein. Autre changement annoncé cette semaine, les Saoudiennes pourront désormais déclarer officiellement une naissance, un mariage ou un divorce, mais aussi être titulaires de l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs. L'Arabie Saoudite qui pourrait bien être la terre promise de Franck Ribéry, à moins que cela ne soit le Qatar, si l'on en croit le journal allemand Bild. L'ancien footballeur international français qui a quitté, vous le savez, le Bayern Munich la saison passée, aurait pris sa décision. Il devrait même s'envoler aujourd'hui pour sa nouvelle destination. Autre destination exotique pour le foot, c'est la Chine, bien sûr. Pour la deuxième année de suite, la ville de Shenzhen accueille le trophée des champions qui oppose traditionnellement le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France, soit cette année le PSG et le Stade Rennais. Nicolas Olivier, vous l'avez constaté sur place, le club parisien a la cote et Neymar n'est plus le seul chouchou des Chinois.
Il y a encore un an, à Shenzhen, il n'y en avait que pour le Ney. Aujourd'hui, un autre attaquant fait chavirer le cœur des jeunes Chinois.
Ici, il s'appelle Mbappé.
Mbappé.
Parce que ça s'écrit comme ça avec les caractères chinois.
Kylian Mbappé a rejoint Neymar au rang d'idole locale, confirme Robert Lee, le coordinateur des supporters chinois du PSG.
Effectivement, on a beaucoup de fans de Neymar, beaucoup. 80% vient avec Neymar. Mais cette année, on voit beaucoup de Mbappé. Là, il y a une Mbappé maniaque extraordinaire ici cette année. Tout le monde est sur Mbappé. Il est souriant, il a fait tout le tour des fans. Ça fait 3-4 jours qu'il le fait à chaque fois. Hyper disponible, hyper souriant. Ça, nos fans, ils adorent.
Pour ses supporters français de passage à Shenzhen, les Chinois aiment avant tout les stars.
Je pense qu'aujourd'hui, ils sont quand même plus fans des joueurs que du club en tant que tel, vraiment. Sans que c'est Neymar, Mbappé.
Il n'y a pas photo. Maintenant, Mbappé est au même niveau que Neymar au niveau de notoriété. Neymar a attiré les gens. Point de vue marketing, ça a été un succès. Les supporters vont rester.
Di Maria ou Verratti ont aussi la cote ici. Et même le nouveau venu, Herrera. L'enjeu pour le club sera de fidéliser ce public jeune et versatile. Alors que le trophée des champions, et donc le PSG, ne devrait pas passer par la Chine en 2020.
PSG, Stade Rennais, le trophée des champions, coup d'envoi demain à 13h30, heure française. Retour en France avec ce chassé-croisé des vacances ce week-end. Plus d'un million de voyageurs attendus dans les aéroports. Et sur les routes, aujourd'hui, la journée est classée orange partout, dans le sens des départs. Orange aussi en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen pour les retours. Ça coince notamment en ce moment sur l'A6 entre Mâcon et Lyon. Demain, soyez prudents, ce sera noir partout en France. L'été, c'est l'occasion de découvrir certaines particularités culturelles de l'Hexagone, les langues régionales par exemple comme le provençal, sauf que dans le Vaucluse, le sujet vire à la guerre des nerfs. Plusieurs maires ont constaté ces derniers mois que des panneaux en langue régionale affichés, vous savez, au-dessus de leurs noms, des noms des villes ou des villages à l'entrée de la commune, eh bien ces panneaux disparaissent. En fait, c'est le conseil départemental qui les retire un à un, comme ici Stéphane Garcia au Taillade, un village aux portes de Cavaillon dans le Luberon.
Et sur ces quatre panneaux, aux entrées et sorties des Tayad, il y avait écrit
« L'Itayado ».
C'est la maire du village, Nicole Girard, qui les avait fait installer. Et il y a 5 mois, le conseil départemental lui a signalé qu'ils allaient les retirer.
Voilà, on nous a répondu que c'était selon une loi, une réglementation, qu'il fallait changer tous les panneaux d'entrée de ville. Et par la même occasion, qu'il fallait enlever les panneaux bilingues. En
fait. La collectivité indique qu'elle ne fait que mettre en place, notamment une loi de 1967. Et le fait que ces panneaux délimitent officiellement la vitesse à l'entrée d'une agglomération. Mais du côté des habitants comme Michel, on y tient à ces panneaux.
Il faut faire honneur à notre région, quoi. Moi, j'ai fait du provençal, mes grands-parents étaient provençaux, donc je suis favorable à ce qu'il y ait l'appellation en provençal.
Et pour Jean-Pierre Richard, le président du collectif Provence,
c'est vraiment catastrophique parce que dans un département où il y a le plus de locuteurs de provençal, je crois qu'il y a une attaque directe contre la langue provençale et les gens viennent chercher un art de vivre. Dans cet art de vivre, il y a une culture et la culture, c'est la culture provençale. Et une langue, bien entendu.
Avant de conclure,
en Bretagne, si président de département s'amuse à ça, c'est la révolution, quoi. Ils remettent tous les bonnets rouges. Quoi, hein.
S'appuyant sur un cas de jurisprudence à Villeneuve-les-Maguelones, dans l'Hérault, il y a 7 ans, la maire des Tayad a décidé de réinstaller ses panneaux provençaux en septembre, exactement au même endroit. Stéphane Garcia, France Bleu Vaucluse pour France Inter.
Et aujourd'hui dans le Vaucluse, le mercure devrait atteindre les 32 degrés sous un grand soleil d'ailleurs globalement partout dans l'Hexagone ce vendredi. Les prévisions complètes, c'est avec Sébastien Léas de Météo France.
Cet après-midi, le soleil radieux et le ciel bien dégagé sur la majeure partie du pays. Autour de la Méditerranée, l'ambiance est assez ventée avec Mistral et Tramontane qui se lèvent. De petits nuages inoffensifs bourgeonnent cet après-midi entre le Massif central, le Poitou, la Bretagne, jusqu'au bassin parisien à la Bourgogne et au Lyonnais. Mais les éclaircies restent belles et prédominantes. Ces nuages sont un peu plus nombreux, des terres normandes aux Hauts-de-France et à l'Alsace, ainsi que sur les Alpes et les Pyrénées. Le soleil fait quand même de belles apparitions, mais une petite averse est quand même possible. Sur les Alpes du Sud, notamment le Mercantour, ces averses peuvent tourner à l'orage. Avec ces conditions ensoleillées, les températures gagnent quelques degrés cet après-midi. Il fait 23 degrés à Brest, Caen et Lille, 24 degrés à La Rochelle et à Biarritz, mais 27 degrés à Besançon et Aurillac, 28 degrés pour Paris et Strasbourg, 29 degrés à Toulouse et 30 degrés à Lyon et à Bastia. À Marseille et à Nîmes, le mercure atteint même 34 degrés.